Nous allons nous tourner une fois encore dans le livre de l'Ecclésiaste, après le livre des Psaumes, de Job. Au centre de votre Bible, les Psaumes, les Proverbes, l'Ecclésiaste. Nous avons vu que ce livre de l'Ecclésiaste est un livre particulier dans le sens où l'auteur, on pense et on a toutes les raisons de penser que c'est le roi Salomon, l'homme qui a été un des hommes les plus riches, un des hommes les plus puissants qui ait jamais existé, qui avait été de la paix que son père David avait finit par installer en conquérant tous les ennemis d'Israël. Et on est à l'apogée de la puissance terrestre d'Israël. Et on sait que le roi Salomon, à qui Dieu avait donné la sagesse pratique, n'avait pas nécessairement reçu la sagesse spirituelle, puisque dans sa puissance et dans son influence, il avait fait l'insensé, il avait joué l'insensé. Il avait multiplié les femmes, 700 épouses, 300 concubines. Il avait multiplié les richesses qu'il avait reçues, qu'on continuait à lui verser, des tas de tribus. Et il était dans le délire de quelque part de la puissance. Trois choses que Dieu avait interdites à l'homme de chercher: la puissance, l'argent, les femmes. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la Bible parle au-delà des modes. Au-delà de l'histoire, elle parle, elle s'adresse à l'homme dans ce qu'il a de typiquement humain. Sa vieille nature est toujours là. Aujourd'hui encore, les principales raisons de chute de l'homme, c'est la recherche de l'argent, la recherche de la puissance, la recherche de la sexualité. Et cette permanence de la pertinence de la Bible est un grand facteur de foi dans la parole de Dieu, dans la Bible. La prochaine fois qu'on vous demande « Mais pourquoi tu crois à la Bible ?» vous dites « Permanence de la pertinence ». Rappelez-vous ces mots, permanence de la pertinence. Je plaisante, mais en même temps, je suis très sérieux. Parce qu'on est des fois là, oh oui, il y a le Coran, il y a la Bhagavad Gita, il y a les décisions de la Cour suprême américaine qui font qu'on n'est plus sûr de rien. Après tout, c'est peut-être nous qui sommes un peu arriérés. Peut-être qu'on est arriérés, mais la parole de Dieu, elle demeure. La parole de Dieu, vous pouvez fonder votre vie sur elle. Si elle appelle l'homosexualité un péché, c'est pas un membre de plus dans la Cour suprême américaine qui va changer les choses. Et encore une fois, loin de nous l'idée d'accuser l'homosexualité comme étant le plus grand crime. Ce qui est triste, c'est de voir que les hautes instances morales et juridiques d'un pays souvent cité en modèle, tombe aussi dans la contradiction avec la parole de Dieu. Alors on a connu ça, on était en avance, on peut être fier de ce qu'on est. On est encore plus cool que les États-Unis. Nous, on a légalisé ça il y a 6 mois ou il y a 1 an. Et encore une fois, c'est pas être homosexuel, c'est pas plus grave qu'être mentir, c'est un péché. Tout péché mérite la colère et la séparation avec Dieu. Dieu aime les hommes malgré leurs péchés. Et je lisais, je l'ai cité en priant, le fait que nous sommes plus, infiniment plus pécheurs que nous le pensons, mais Dieu nous aime infiniment plus que nous le comprenons. C'est le paradoxe de la Bible. Et Dieu aime les homosexuels. Dieu aime les voleurs. Dieu aime les meurtriers. Il est mort pour eux. Et ne nous drapons pas dans notre moralité impeccable. Vivons d'abord personnellement, individuellement, dans le plus grand respect de Dieu et de ses commandements. Et encore une fois, aux États-Unis, les chrétiens ont été choqués par la chute morale d'un grand responsable chrétien, évangélique, qui fait que on se sent mal pour aller critiquer le président des États-Unis pour se réjouir de ce que le mariage entre homosexuels est devenu un progrès social. Parce que si on n'est pas irréprochable, on ne peut pas vraiment confronter le péché avec amour, toujours avec amour. Et donc cet homme, Salomon, qui avait reçu cette grande sagesse à la fin de sa vie, il réfléchit sur ce qu'il a connu et il nous montre que la vie sous le soleil, elle est vaine, elle est futile. Alors cette expression qui va revenir souvent, plus d'une trentaine de fois dans ces quelques lignes, vivre sous le soleil, ça ne veut pas dire aller à la plage pour bronzer. Ça veut dire vivre sur terre, en limitant la dimension de notre existence à ce qui est ici-bas. À ne vivre sans égard pour Dieu. Ça ne veut pas dire sans croire que Dieu existe, mais la plupart des hommes, si on les pousse un peu, ils veulent bien reconnaître qu'il y a peut-être un grand principe, qu'il y a un Dieu qui existe, mais ça ne les concerne pas au quotidien. Ils n'ont pas envie de chercher à savoir comment l'existence de ce Dieu a des implications sur leur vie au jour le jour. Donc, on a vu déjà que lorsqu'ils considèrent la vie sous le soleil, il voit que la vie est vaine, la vie est vide, la vie est tellement rapide. À quoi bon ? À quoi bon vivre ? Il a cherché un sens à la vie, il n'en a pas vraiment trouvé sous le soleil. Et ce qui est un peu délicat dans ce recueil de Salomon, c'est de savoir de quel point de vue il se place. Généralement, lorsqu'il est super déprimé, lorsqu'il vous donne envie d'aller vous suicider, c'est qu'il réfléchit avec une vision sous le soleil. Et il veut enfoncer le clou, il veut nous convaincre, il veut convaincre ses lecteurs, ses auditeurs. L'Ecclésiaste, c'était le Coëlète, celui qui s'adresse à l'Assemblée. Il veut convaincre ses auditeurs, ses lecteurs, que nous sommes, que au-delà de cette vanité, ce vide, cette futilité de la vie, lorsque nous considérons Dieu, d'un seul coup, la vie prend une dimension. La vie vaut la peine d'être vécue. Mais il faut Il faut chercher à voir Dieu. Si on reste au premier degré, on ne voit rien, on se dit « à quoi bon ?» Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est passé un peu de mode, il y avait ces dessins qu'on voyait dans les journaux, dans des livres. Et a priori, c'était des dessins qui ne représentaient rien. Mais si on commençait à cligner un peu des yeux, à regarder au-delà de l'image, d'un seul coup, on arrivait à voir une image en relief, une image saisissante. Et l'idée, c'était qu'avec le décalage de nos deux yeux pour la vision, si on arrive à voir deux images qui se superposent d'un seul coup, l'image qui semblait complètement inexistante prend un relief fantastique. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu l'image en relief? Il y en a un ou deux ou trois. Pour les autres, on va vous amener des images et on va faire des cours de vision. Alors pourquoi j'amène ce sujet? C'est parce que si vous ne savez pas qu'il y a quelque chose à voir, vous n'allez même pas faire l'effort d'essayer de voir et d'un seul coup de voir cette image fugitive. Et donc, de la même façon dans vos vies, dans la vie, si on ne sait pas que Dieu est à voir, on ne va pas le voir. Les gens ne recherchent même pas Dieu parce qu'on ne leur a pas dit qu'il y a un Dieu qui existe, qui les aime, qui est mort pour eux. Et c'est là que l'Église a sa responsabilité à jouer. Pas de condamner, de dire « nous on est bien, vous êtes des méchants, des mauvais, des pécheurs », mais de dire que nous sommes au bénéfice de l'amour d'un Dieu qui est là pour eux aussi. Et c'est ce que Salomon, par moment, il va voir la vision de Dieu et d'un seul coup, le passage est encourageant. Alors dans sa construction, les premiers chapitres vont être là pour nous montrer la futilité de la vie sans Dieu. Et puis il arrive à la fin, il va nous montrer qu'avec Dieu, la vie est belle, la vie vaut la peine d'être vécue. C'est un privilège que d'être vivant. Et on peut l'écouter parce que lui, il a eu accès à tous les plaisirs, il a eu accès à toutes les richesses que jamais homme n'a pu connaître. Et lorsque quelqu'un vous dit « ça ne vaut pas la peine d'être vécu si c'est vécu sans Dieu », il est digne de confiance. Si vous dites à quelqu'un « la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans Dieu », les gens vont vous dire « mais toi, qu'est-ce que tu connais à la vie ? Tu n'as jamais été vraiment riche, tu n'as jamais eu beaucoup de succès auprès de l'autre sexe ou du même sexe maintenant qu'on est après la décision de la Cour suprême, auprès des richesses, qu'est-ce qu'on a ?» Mais lui, il avait le droit de parler et lorsqu'il nous dit qu'il a vu, qu'il a fait l'expérience de toutes ces choses, c'est du vécu, c'est quelque chose que nous pouvons recevoir. Alors, on a déjà vu, il nous a parlé de la vanité du travail. On peut faire tous ces efforts pour amasser et puis on meurt. Tout est éphémère. On a vu la semaine dernière qu'il y a un temps pour tout. Les choses se répètent plus ou moins. J'ai été personnellement frappé lorsque j'ai vu une photo de ma petite fille Daphné. Rassurez-vous, je ne vais pas trop être gaga avec vous dans les illustrations de sermons, mais peut-être une ou deux de temps en temps. Elle était dans l'avion, elle était dans un petit berceau fixé au mur qui se trouve devant certains sièges. Et Et je me disais, c'est drôle parce qu'il y a, 34 ans, c'était Tonio qui était dans ce petit, petit bassinet, bassinette ou petit berceau. Et ce qui est drôle, c'était que c'était déjà dans un Boeing 747. Tonio était déjà un peu inquiet quand il a su que KLM le faisait aller si loin dans un vieux Boeing 747. Alors je lui ai dit, mais c'est des avions qui ont fait leurs preuves et ils sont bien entretenus. Donc il y avait cette répétition des choses. Et nous qui sommes plus anciens que d'autres, nous savons que la vie se répète. Et ça aussi, ça peut être décourageant, ça peut être de dire à quoi bon. Lorsque l'on vit, lorsqu'on démarre dans la vie, et c'est une bonne chose, on a des ambitions, on aspire à accomplir des choses. On aspire à ce qu'on appelle le succès terrestre, le succès ici-bas. Avoir une bonne formation, recevoir une bonne éducation, pouvoir réussir des diplômes les plus prestigieux possibles, pour pouvoir obtenir un super job. Quand j'étais plus jeune, tout le monde voulait avoir un travail où on puisse voyager. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les low cost. Et donc, pour voir le monde, il fallait avoir un travail où on voyageait. Maintenant, il y en a qui voyagent beaucoup et qui se disent que peut-être ce serait mieux s'ils n'avaient pas tant à voyager. Mais on veut avoir du succès, devenir riche, pouvoir s'offrir des biens matériels, fonder une famille qui n'est pas dans le besoin. On a toutes ces aspirations. Il n'y a rien de mauvais à avoir ces aspirations. Ce qui est dangereux, c'est lorsque Dieu n'entre pas dans l'équation. Lorsque Dieu est relégué à « Oh, on verra bien, peut-être à la fin, on verra s'il y a quelque chose. » On va lire ensemble le chapitre 4 de l'Ecclésiaste, page 657 dans la Bible à la Colombe. J'ai vu, d'autre part, toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Voici les larmes des opprimés et personne pour les consoler. La force est du côté de leurs oppresseurs et personne n'est là pour les consoler. Moi, je déclare les morts plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore vivants. Voilà, si vous étiez déprimé ce matin, vous êtes venu au mauvais endroit. Voilà ce que déclare notre Qohélète, notre Ecclésiaste. Mais mieux encore que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore existé et qui n'a pas vu l'œuvre mauvaise qui se fait sous le soleil. J'ai vu que toute peine et que tout succès d'une œuvre ne sont que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Cela encore est vanité et poursuite du vent. L'insensé se croise les bras et mange sa propre chair. Mieux vaut le creux de la main plein de repos que deux poignées de peine et de poursuite du vent. J'ai vu encore une autre vanité sous le soleil. Voilà un homme seul, sans personne d'autre. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin. Même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et prive mon âme de bonheur ? C'est là encore une vanité et un souci malsain. Arrêtons-nous là pour quelques instants. futilité de la recherche du succès terrestre. Illusion du succès. Il commence par faire remarquer qu'il a vu toutes les oppressions, toutes les inégalités, tout le malheur causé par les dominations de certains sur d'autres. Et la Bible parle de beaucoup d'oppression. C'est une réalité qui malheureusement, malgré nos proclamations des droits de l'homme, nous continuons à voir de toutes parts. L'oppression des puissants contre les pauvres, des forts contre les faibles, des riches contre les moins fortunés. Il avait déjà vu toutes les oppressions. La Bible parle beaucoup des opprimés. Elle cherche à les encourager, à dire qu'au-delà de leurs oppressions ici-bas, ils connaîtront un jour une justice divine. Et parce qu'elle semble encourager les opprimés à vivre dans l'oppression, certains ont appelé la religion l'opium du peuple. On dit que la religion, en fait, elle était là pour permettre d'asseoir la domination des puissants contre les faibles. Dieu permet cette domination et il nous promet qu'un jour la justice passera, que la justice sera faite. Souvent, vos voisins vont vous dire, mais pourquoi est-ce que Dieu permet toutes ces choses? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, la justice n'arrive pas maintenant? C'est parce qu'il nous donne le temps de nous repentir, de venir à lui. Si Dieu s'était fâché et était revenu montrer la justice il y a 50 ans, je n'aurais pas été sauvé. Je n'aurais pas connu son message d'amour. Donc je suis content et reconnaissant qu'il ait attendu que je puisse un jour tourner l'oreille vers lui et être sauvé. Peut-être parmi nous, il y en a qui ont été sauvés il y a seulement quelques mois ou quelques années. Si ce n'était pour cette patience de Dieu à tolérer le mal, il vous aurait déjà détruit. Il m'aurait déjà détruit. L'auteur parle des larmes des opprimés et qu'il n'y a personne pour les consoler. La force est du côté des oppresseurs et personne n'est là pour même consoler. Et je pense qu'il parle des oppresseurs aussi. Encore une fois, ça c'est la vision sans Dieu. C'est la vision d'avant une plus grande révélation qui nous est arrivée par l'Évangile, par le Nouveau Testament. Mais même déjà, le psalmiste, et souvent donc le père même de Salomon, savait que Dieu est conscient de nos souffrances, Dieu est conscient de notre incroyable peine, de nos chagrins, de nos deuils. Il y a ce passage du psaume 56, où David disait « Il complote, tout le jour il me tourmente en parole, on se moquait de lui, Ils n'ont à mon égard, c'est psaume 56, verset 6, tout le jour ils me tourmentent en parole, ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées, ils complotent, ils épient, ils montent la garde sur mes talons parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par fraude qu'ils échapperaient. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Il est conscient que Dieu recueille, il connaît. On sait qu'il connaît les cheveux, le nombre des cheveux sur notre tête. Mais est-ce que vous saviez qu'il recueille vos larmes dans une petite fiole, ou peut-être un grand bocal, ou un jerrican, ou un super magnum? Dieu n'est pas inconscient, Dieu voit, Dieu sait. Déjà dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, l'Éternel était le Dieu qui voyait les tourments de Agar et de son fils. Il connaît, il est Elroy, il voit. Les larmes de ceux qui souffrent, Dieu les connaît. Et puis il dit qu'il n'y a personne pour les consoler. Personne pour les consoler, ça c'est un mensonge de l'ennemi que Paul a rectifié dans 2 Corinthiens, lorsqu'il dit que béni au tout début de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, à partir du verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Car de même que la souffrance de Christ abonde pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Un passage merveilleux, parce qu'il nous montre une réalité merveilleuse de la consolation que Dieu nous amène dans toutes nos souffrances, dans toutes nos peines, et qui plus est, donne un sens, entre autres, ce n'est pas le seul sens, j'en suis persuadé, mais les épreuves par lesquelles nous passons, les souffrances que nous connaissons, nous permettent d'être des instruments de consolation pour ceux qui passent par les mêmes souffrances et les mêmes épreuves. Alors, quand on est dans l'épreuve, quand on est dans le deuil, dans le chagrin, c'est souvent quelque chose qui n'est pas très substantiel, c'est pas quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer très solidement, dans l'immédiat. Mais j'ai été frappé, il y a quelques semaines, de voir la maman de Corinne, Olympia, qui a perdu son époux de 50 ans ou plus, 53 ans, Jean, qu'on a connu pour certains, ils étaient passés ensemble ici, de voir comment elle qui a tant souffert de ce décès, elle peut utiliser cette épreuve pour encourager ceux qui passent par les mêmes épreuves. Et je la voyais qui encourageait, qui oubliait son propre chagrin pour encourager sa sœur, qui, elle, a perdu aussi son mari brutalement, mais qui, je crois, ne connaît pas le Seigneur comme Olympia le connaît. Et c'était vraiment émouvant et beau de voir comment Elle avait reçu un ministère de consolation auprès des personnes qui passent par les épreuves qu'elle a connues. Alors ça, c'est souvent quelque chose que on ne voit pas tout de suite, mais c'est quelque chose qui peut racheter et donner un sens à ce qui paraît être totalement insensé, totalement comme une panne de la permanence de la présence de Dieu qui veut vous protéger des souffrances. Dieu nous permet de passer par la souffrance, mais il est là pour nous consoler. Il ne nous a jamais dit qu'il nous épargnerait toute souffrance, mais il nous a promis qu'au milieu de cette souffrance, il sera avec nous. Alors, c'est une chose que de parler de souffrance de façon philosophique, comme si on rédigeait un devoir pour le bac, une épreuve de philo pour le bac, c'est autre chose que de le vivre dans sa chair et dans les douleurs lancinantes de l'absence, du deuil, de la maladie, de la souffrance. Mais Dieu nous promet qu'il est conscient et qu'il nous aime et qu'il va nous réconforter. Là encore une fois, Salomon parle du point de vue sous le soleil. Dieu n'est pas là dans ses propos. Et encore une fois, il veut nous montrer où l'absence de Dieu va nous conduire logiquement. Et il va dire, « Moi, je déclare les morts plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore vivants. » Vous cherchez le bonheur, ben vous feriez mieux d'être mort. Et c'est mieux que d'être encore vivant. Et puis il dit même, c'est mieux encore que de ne jamais exister et de ne jamais voir l'œuvre mauvaise qui se fait sous le soleil. Ne jamais exister et ne pas connaître le péché et ses conséquences dans la vie ici-bas. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il reprenait là des propos qui ont été tenus par des philosophes grecs. Donc, je pense que ces philosophes grecs se sont peut-être même inspirés de ces déclarations de Salomon. Mais il y avait un écrivain grec, Plutarque, qui a été cité pour avoir dit « Le meilleur pour l'homme est de ne point naître, et s'il est né, de mourir bientôt. » Waouh ! Donc en fait, je me disais, à ces philosophes, on pourrait leur dire qu'il y avait des gens très heureux, c'est tous les gens qui n'existent pas. C'est un peu stupide comme raisonnement, de dire que le mieux c'est d'être jamais, n'avoir jamais vécu, c'est une façon de dire que la vie ici-bas, sans Dieu, est vraiment ultra, ultra déprimante. Il a vu que le succès, en fait, il est confronté à l'oppression, que ceux souvent qui ont du succès vont avoir tendance à opprimer les autres. Et devant ça, il dit que c'est vraiment qu'une illusion que de trouver un sens à la vie par la recherche du succès. Il va montrer dans les versets 4 à 6, en fait, qu'il y a, dans cette recherche du succès, il peut y avoir une compétition qui mène à l'épuisement. J'ai vu que toute peine et que tout succès d'une œuvre ne sont que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Cela encore est vanité et poursuite du vent. Vous allez voir que c'est une expression que vous allez connaître par cœur, vanité et poursuite du vent. L'insensé se croise les bras et mange sa propre chair. Mieux vaut le creux de la main plein de repos que deux poignées de peine et de poursuite du vent. Autrement dit, là, il nous dit qu'en fait, la recherche du succès, ça va susciter des jalousies entre hommes. Et c'est ce qui est terrible dans le système éducatif occidental, c'est la compétition. Ça existe au Japon et dans d'autres pays, en Chine aussi. Mais en fait, on peut avoir des dons, des talents, mais si on n'est pas le premier, on a l'impression qu'on a tout raté. Le problème avec la compétition, c'est qu'elle ne donne qu'un seul vainqueur. Et les autres sont jaloux du succès de celui qui est arrivé au sommet. Le danger, c'est que ça nous décourage au point que on ne fait plus rien. Et on cherche plus, on a tendance à vivre replié sur soi. Manger sa propre chair, on peut penser que ça veut dire vivre sur soi-même. Vivre isolé des autres. Quand on est déçu, lorsqu'on est blessé, on a une tendance au repli. Souvent, on a des personnes même dans l'église qui disent « Oh, ça fait plusieurs semaines que je ne viens pas parce que ça va mal. » Ah, j'ai dit « Ben, c'est exactement ce que Satan veut que vous fassiez. Vous êtes blessé, donc vous allez vous isoler et là, il aura toute liberté de vous attaquer, de vous décourager encore davantage. » Encore une fois, c'est la réaction de l'homme au naturel. On pense que tout le monde va bien, que tout le monde est en bonne santé, plein de projets, plein de ressources, de richesses, et qu'on est les seuls à souffrir. C'est là que justement il faut insister pour rechercher la compagnie des saints, la compagnie de ceux qui vivent en considérant Dieu, qui vivent en donnant de l'importance à Dieu dans leur vie. Il dit, vaut mieux avoir quelque chose de pas formidable que deux poignées, deux mains pleines de rien. Quelle sagesse, c'est tout bête, mais c'est bien vrai. Certains, parce qu'ils ne peuvent pas avoir la position la meilleure, ne veulent même pas travailler. Mieux vaut le creux de la main plein de repos. Et là, c'est l'idée d'être en paix, de vivre honnêtement, d'avoir bonne conscience, plutôt que d'être dans la triche, en essayant d'avoir plus et de se retrouver sans rien du tout, épuisé. Il continue en disant que ce désir d'avoir toujours plus, ça mène à la désillusion. J'ai vu encore une autre vanité sous le soleil. Voilà un homme seul, sans personne d'autre. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin. Même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et prive mon âme de bonheur? C'est là encore une vanité et un souci malsain. Si vous avez remarqué, il y a une espèce de progression à partir du verset 1 de ce chapitre 4. Il parle d'abord des masses, des grandes quantités de personnes, des foules, dans laquelle il a vu les oppressions qui sont commises sous le soleil et qui font qu'on est tellement malheureux que ça vaudrait aussi bien de n'avoir jamais existé. Puis après, il parle de la compétition. Et la compétition, c'est généralement entre soi-même et un petit groupe ou une autre personne. Et puis là, il va voir qu'en fait, le problème, il n'est pas dans la société. Le problème, il n'est pas dans mes relations avec les autres. Le problème, il est dans mon cœur. J'ai toujours beaucoup voulu, j'en ai toujours beaucoup voulu à Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ça a été, entre guillemets, un grand penseur, mais ses prémices, sa pensée, c'était que l'homme au naturel était bon. C'était la théorie du bon sauvage, pour ceux qui ont étudié un peu Jean-Jacques Rousseau, mais que le mal venait de la société qui opprimait, qui forçait l'homme dans certains cadres. Et ça, c'est complètement à l'opposé de la vérité, de ce que la Bible annonce. Le problème, il n'est pas au niveau de la société, ou la source du problème n'est pas dans la société. La source du problème, elle est dans mon cœur. Une autre phrase que vous pouvez retenir lorsque vous parlez avec vos amis qui ne croient pas, c'est de leur rappeler qu'au cœur de chaque problème, il y a un problème dans le cœur. Les problèmes dont on nous parle dans les médias, en fait, si on y réfléchit bien, ils viennent de le péché qui est dans mon cœur. Certains vous diront, oui, mais il y a des catastrophes naturelles. Il y a eu des inondations, il y a eu 500 maisons complètement inondées, des gens qui ont perdu leur vie. Oui, mais attendez, pourquoi il y avait 500 maisons dans une zone inondable ? C'est parce que dans le cœur des promoteurs, il y avait l'avarice du gain, le désir de faire de l'argent. Et c'est un principe qu'on peut... Alors on peut sans doute essayer de trouver des exceptions, mais c'est une loi. Au cœur de chaque problème, le problème est dans le cœur. Et donc, il y a les oppressions, il y a la compétition. Mais moi, je suis là à vouloir toujours plus. Maintenant, l'homme, il est cet exemple qu'il cite, voilà un homme seul, sans personne d'autre. Et c'est un peu triste parce qu'il est tout seul, il n'a ni fils ni frère, et il n'a jamais fini de travailler, il veut toujours plus. Ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et prive mon âme de bonheur ? Il est dans cette poursuite frénétique de toujours plus. Et on demandait à un des hommes les plus riches qui ait vécu au siècle dernier, Rockefeller, combien fallait-il d'argent à un homme pour être heureux ? Et il disait toujours $1 million en plus. On n'a jamais fini d'avoir des choses ou de vouloir plus. Pour qui donc est-ce que je travaille et prive mon âme de bonheur ? C'est là encore une vanité et un souci malsain. C'est pas bon pour la santé. Toujours vouloir plus, toujours vouloir arriver au sommet, parce que dans mon cœur, il y a cette soif qui fait qu'on va se priver de bonheur. On va se priver des bonheurs simples de la vie, de ce que la Bible appelle le contentement. Le contentement et la sainteté, se contenter d'une vie simple, être reconnaissant pour les choses que nous avons déjà. Quelle différence ça fait dans la vie ? Et là, en fait, il va dire que cette recherche du toujours plus, cette recherche du succès, entre guillemets, du succès ici-bas, ça nous isole. Et au lieu de nous entraider, nous faisons du mal, nous opprimons les autres, nous sommes jaloux des succès des uns et des autres, et nous nous retrouvons tout seuls. Alors là, on tombe sur les passages qu'on utilise souvent quand on célèbre un mariage. Ça s'applique dans le cadre du mariage, mais ça s'applique dans toutes les relations de la vie. Verset 9, « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. » Je ne sais pas si vous avez déjà fait un travail de bricolage, c'est souvent plus utile, plus facile lorsqu'il y a au moins une personne pour vous aider à tenir le bout du mètre, à vous passer l'instrument lorsque vous êtes sur l'échelle en haut. Deux valent mieux qu'un. Et ce n'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. On ne nous apprend pas à coopérer. On nous apprend à être le premier. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. On arrive à des choses lorsqu'on est aidé par quelqu'un d'autre et ça produit de bons résultats. Si c'est une entreprise, on a maintenant le statut d'auto-entrepreneur. On va avoir le statut de duo-entrepreneur si on était biblique, pour que ça y ait plus de succès. Parce que pour les entreprises d'auto-entrepreneurs qui se créent, je crois que la moitié ou plus font faillite au bout de 6 mois ou d'un an, lorsqu'il faut commencer à payer des taxes, des impôts. Et il explique un peu, car si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Quelques années, j'étais tombé de l'échelle. J'étais heureux d'avoir Nancy à proximité pour me relever et m'aider à aller chez le médecin. Nous recevons de la compagnie d'autrui, de la coopération avec quelqu'un d'autre, un encouragement mutuel parce que nous sommes faibles. Verset 11, « De même, si l'on se couche à deux, on a chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il ? Quand nous sommes vulnérables, nous allons recevoir un encouragement mutuel. » Alors, on pense au mariage et les célibataires disent, « Oui, c'est vrai, c'est froid l'hiver. » C'était avant les couvertures chauffantes. Mais je me souviens lorsque, il y a de ça de nombreuses années, on avait été faire du camping dans la neige avec des membres de la famille de Nancy. Et le danger, bien sûr, c'est l'hypothermie. C'est que lorsque... Donc on creusait des igloos, des cavernes, des petits trous dans des congères de neige pour pouvoir y passer la nuit. Alors ça a l'air un peu de dire, c'est un peu comme passer la nuit dans un congélateur. Sauf que la présence de corps humain fait qu'il y a l'air ambiant s'échauffe, la glace fond un peu. Mais il y a toujours le danger de mouiller les sacs à dos et de faire de l'hypothermie. Et on avait vu une petite vidéo qui donnait des conseils et qui disait que si quelqu'un tombe dans l'hypothermie, le meilleur remède, c'est de que quelqu'un d'autre vienne dans le même sac de couchage, en prendre un qui soit sec, et essayer de réchauffer. Donc si l'on se couche à deux, on a chaud, on peut résister au froid. Mais celui qui est seul, comment est-ce qu'il va se réchauffer ? On est faible, on est vulnérable, mais on est aussi des fois attaqué. Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister, la corde à trois brins ne se rompt pas vite. On a eu cette terrible attentat ou terrible attaque près de Lyon de ce djihadiste ou de cet homme déséquilibré, on n'en sait rien, qui a attaqué son patron, qui l'a tué, égorgé, décapité. Il n'a pas maîtrisé cet homme seul. Après, on nous raconte qu'il y a un pompier qui a réussi à le maîtriser, mais tout de suite, d'autres sont venus l'enfermer, le résister. Et puis, il y a cette fameuse phrase qu'on utilise souvent quand on célèbre un mariage, « La corde à trois brins ne rompt pas si vite ». Alors techniquement, vous savez que les cordes en chanvre, on peut faire des filaments, un filament, mais c'est mieux si c'est torsadé avec un autre fil, mais qu'une corde qui résiste mieux, c'est une corde qui est tressée, une corde à trois brins. Et aujourd'hui, dans les câbles métalliques, les câbles en acier ou en fer, en métal, en inox, en quelque matériel métallique qui soit, là aussi, il y a des brins qui sont tressés, qui sont tissés ensemble. Et la corde à trois brins, on pense souvent que c'est une image pour dire qu'il y a une personne et une autre personne, dans le cadre du mariage, un homme et une femme, n'en déplaise à la Cour suprême américaine. Et puis, il y a la présence de Dieu au milieu de cette relation. Et que lorsque Dieu est là dans un couple, le mariage va résister aux attaques de la société, aux attaques de notre nature de pécheur. La corde à trois brins ne rompt pas si vite. Donc toujours cette idée qu'au lieu de faire de la compétition, de chercher à être tout seul au sommet, on devrait s'entraider. Puis finalement, il va nous parler de ce que le succès, non seulement il est futile, c'est futile que de rechercher le succès ici-bas, mais une des raisons pour laquelle c'est futile, c'est que c'est volatile. C'est-à-dire que ça ne dure pas longtemps. Et dans notre société, on célèbre un peu les gens dont le succès dure longtemps. On a Michel Drucker, qui est journaliste depuis 50 ans, qui a toujours l'air d'avoir 30 ans, si on ne va pas voir de près. Il y a Johnny Hallyday, qui lui aussi est célèbre. Et c'est quelque chose de tellement rare qu'on le remarque. C'est tellement vrai en politique. Les gens ont tendance à dire on a essayé tel parti, on va maintenant essayer l'autre parti. Ce parti ne marche pas, qu'est-ce qu'il y a comme autre parti? On va même peut-être revenir à l'ancien parti. Il y a le balancier parce que la popularité, c'est quelque chose qui ne dure pas. Et là, il va prendre l'exemple des hommes, d'un roi qui est remplacé par son fils, mais ce fils va être lui aussi remplacé par quelqu'un d'autre. Cette répétition des choses, les temps pour grandir, le temps pour décroître, le temps pour pleurer, pour rire, le temps pour se lamenter, le temps pour danser, le temps pour être élu, le temps pour être rejeté. Et il parle d'un enfant indigent, mais sage, vaut mieux qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus se contrôler. On peut penser qu'il avait à l'idée sa propre situation, on pense qu'il était à la fin de son règne. Et il disait qu'il valait mieux quelqu'un de pauvre avec de la sagesse qu'un quelqu'un de riche, un roi vieux, donc qui, comme lui, avait accumulé des choses avec les périodes de paix, qui avait pu régner longtemps, mais qui était insensé et qui ne pouvait plus se contrôler. Il y a eu il n'y a pas longtemps un projet, une proposition de loi pour limiter l'âge des candidats à être députés, à être limité à 70 ans. Alors certains ont fait remarquer, mais à ce moment-là, Ronald Reagan n'aurait pas été élu aux États-Unis. Mais la question, c'est est-ce que la personne en place peut encore se contrôler ? Et c'est valable pour les églises, les pasteurs qui s'attardent trop longtemps et qui conduisent l'église à perdre de sa pertinence. Rappelez-vous, permanence de la pertinence. Un enfant indigent, et malheureusement, le roi Salomon a été suivi par un de ses fils, on ne sait pas, c'est le seul qui soit nommé, Rehoboam, qui a conduit à la division du royaume qui avait été si prospère sous son papa. Un enfant indigent, mais sage, vaut mieux qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus se contrôler, car ce garçon peut sortir de prison pour régner, de même celui qui règne peut être né pauvre. J'ai vu tous les vivants qui marchent sur le soleil être du côté de l'enfant qui se dressait comme successeur à la place de l'autre. Alors quand il dit tous les vivants, c'est une figure de style, c'est une façon d'exagérer, mais il veut dire que c'est la règle commune. On a tendance à être pour la personne nouvelle plutôt que pour l'ancien. Et verset 16, il n'y avait point de fin à tout ce peuple et à tous ceux à la tête desquels il se tenait. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car cela n'est aussi que vanité et poursuite du vent. C'était des paroles prophétiques. Son fils qui allait lui succéder n'allait pas être un roi qui allait être populaire très longtemps. Et il continue, tout cela n'est que vanité et poursuite du vent. Et il a toujours, et ça appartient plutôt au chapitre suivant, mais au verset 17, encore une fois, les divisions de la Bible ne sont pas nécessairement inspirées par l'Esprit-Saint. C'est une pratique que les hommes ont mis en place pour pouvoir parler plus facilement du texte. Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. Là, il va encore une fois basculer, il va parler de Dieu. Et ça sera beaucoup plus encourageant, même si c'est toujours des mises en garde contre la fête dont nous vivons notre foi ou dont nous ne la vivons pas du tout. Mais, encore une fois, il a montré dans ce chapitre 4 la futilité de la recherche du succès humain. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'essaye pas de faire de son mieux, qu'on n'essaye pas de réussir ses études, de réussir à avoir des diplômes, à être influent dans la société, à en retirer des fruits. Mais si ça devient notre unique motivation, alors nous allons au-devant de la catastrophe. C'est un souci malsain. C'est quelque chose qui est malade. Tout, encore une fois, n'est que sont des vanités sous le soleil. La vie, les motivations de la vie, sans égard pour Dieu, ici-bas, tout ça, ça va vous éclater entre les doigts, comme des grosses bulles après lesquelles des enfants courent, des bulles qui brillent, irisées par le soleil, mais dès qu'ils essayent de les saisir, elles ne sont plus. C'est le message de Salomon. Prions. Seigneur, tu nous mets en garde. Aide-nous à comprendre ces vérités qui sont je le reconnais, décourageantes, qui peuvent dire à certains qu'il vaut mieux ne pas vivre, ne pas être né, ou alors, si on est né, mourir vite, pour ne pas voir les conséquences de ce genre d'existence sans égard pour Dieu. Seigneur, je te prie, devant les nouvelles si décourageantes pour tes enfants, devant les lois qui sont décrétées par les hommes, devant les violences insensées commises par d'autres hommes, Seigneur, nous pourrions nous dire aussi que, oui, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, à quoi bon ? Mais Seigneur, aide-nous à persévérer, sachant que tu es là et que la vie avec toi, elle est merveilleuse. Comme nous le disait Jésus, c'est une vie abondante qui commence ici-bas, en ne recherchant pas le succès, mais ton succès, Seigneur, ton succès dans les cœurs autour de nous. Aide-nous à parler de toi, parler de l'immense espoir, l'immense raison d'être, l'immense raison de vivre que nous avons en toi, Seigneur Jésus. Fortifie ton Église, Seigneur. Fortifie tous ceux qui sont découragés, qui se disent à quoi bon. Seigneur, même dans ton Église, aide-nous tous à vivre pour te plaire, Seigneur. À tout faire pour te plaire, Seigneur. À résister au péché avec ton aide, à nous entraider, à être là pour nous réconforter, nous consoler, pas à chercher à être le premier, le numéro un, dans quelque domaine que ce soit, Seigneur. Merci de la sagesse infinie de ta parole, Seigneur. Aide-nous à être le sel de la terre, la lumière qui brille dans un monde de ténèbres, Seigneur. Sois glorifié dans chacune de nos vies. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.